Santé. Un bon bonjour à vous tous. Très heureuse de vous retrouver en ce mercredi 22 février. Marianne Paquette avec vous pour cette émission de C'est bon pour la santé. Vous êtes sur Canal M. Aujourd'hui, à l'émission, on parle du logiciel Antidote que vous connaissez sûrement comme une aide à la correction de vos textes. Peut-être que vous savez moins que l'on peut également l'utiliser pour faciliter l'apprentissage de la langue chez des jeunes qui vivent avec différents troubles d'apprentissage. On en parlera davantage tout à l'heure avec Dolores Tam. Elle connaît bien ce sujet. Elle est formatrice chez Druide Information. Aussi, on aborde avec Hubert Sassy, directeur général d'Éducalcool, un sujet qui peut sembler délicat, sensible, mais dont on parlera de plus en plus dans les prochaines années. Peut-être parce qu'on constate, hein, et vous le savez, un vieillissement de la population ici au Québec. Et avec lui, on abordera la consommation d'alcool chez les personnes âgées qui devient de plus en plus préoccupante. Aussi avec Dr. Langis Michaud, lui optométriste, également président de l'Ordre des optométristes du Québec. On parle des bons gestes. Il sera là pour nous rappeler, Dr. Michaud, plutôt des bons gestes d'hygiène et d'entretien à faire lorsque l'on porte des lentilles de contact. Et dans quelques instants, a aidé Lisa Mondragon, étudiante. En fait, elle est doctorante en informatique cognitive à l'UQAM et maman de 3 enfants autistes. Nous présente un tutoriel intelligent qu'elle a créé afin d'aider des enfants autistes dans leur apprentissage des mathématiques et également, et ça c'est important de le souligner, à mieux gérer leurs émotions, mais tout juste avant la revue de presse avec Martin Forgue. Martin Forgue, bonjour.
Rebonjour Marianne, bienvenue. Rebienvenue plutôt.
Merci et merci d'avoir tenu le fort pendant mon absence.
Ça Martin. S'est bien passé. Merci pour le privilège de m'avoir permis de combler voilà l'espace.
Pendant C'est bon pour la santé et on continue avec un sujet qui vous tient à cœur, Martin Forgue, les transferts en matière de santé. Bientôt, on pourrait espérer une entente au Québec.
Peut-être, c'est une question en l'air, et qui relie aussi à une étrange citation du Dr Barrett qui dit « Ces choses-là, ces négociations sur les transferts fédéraux en santé, bien ça se discute au-dessus de moi. » Je vous donne un peu plus de détails. Donc, premièrement, je vous rappelle que maintenant, c'est 6 provinces ainsi que les 3 territoires qui ont quitté le front commun dans les négociations avec Ottawa. On poursuivra plus tard dans cette revue de presse avec le cas de la Colombie-Britannique. Et donc, M. Barrett, qui dit que donc, toutes ces discussions-là se déroulent un peu au-dessus de sa tête. C'est le premier ministre Philippe Couillard de son côté qui dit s'entretenir sur une base régulière depuis des mois avec ses homologues des autres provinces au sujet de la santé également. Donc, est-ce qu'on peut penser que pour M. Barrett se sent un peu dépassé par les négociations, par tout ce qui se passe, compte tenu évidemment de cette succession de signatures là, qui a eu lieu durant les dernières semaines? Et je vous dis que, bon, parce que il y a du côté fédéral, il y a la ministre de la Santé, Jane Philpott, qui a affirmé mardi la semaine dernière qu'elle ne serait pas surprise si Ottawa arrivait à une entente avec le Québec et, je la cite, bientôt. Donc, évidemment, ça soulève la question. Est-ce qu'il y aura une entente prévue? Et ça pose aussi la question. L'article du Huffington Post n'est pas très, très détaillé là-dessus. Ça pose la question, où est la place de M. Barrett désormais autour de cette table de négociation-là? Mm-hmm. Selon ce qu'on peut lire, qu'il ait de moins en moins de place.
Oui. Toutefois, du côté de nos voisins de l'Ouest, une entente a été faite.
Nos lointains voisins de l'Ouest, puisque oui, on parle de la Colombie-Britannique ici, donc la 6e province finalement à quitter le Front commun, comme je le disais, qui joint le côté fédéral, qui accepte finalement les conditions. Donc, au cours des 10 prochaines années, le gouvernement fédéral qui accordera 1,4 milliard de dollars supplémentaires à la Colombie-Britannique. On parle de 785,7 millions de dollars pour améliorer les soins à domicile, notamment pour répondre aux besoins critiques en matière d'infrastructures de soins à domicile, et 654,7 millions de dollars pour financer les initiatives en santé mentale. On rappelle que ce sont les deux principaux enjeux que les transferts fédéraux viennent combler. C'est ce qu'on a décidé de cibler du côté d'Ottawa. On dit que les investissements devraient permettre d'améliorer le temps d'attente pour les services en santé mentale, destinés surtout aux enfants et aux jeunes adolescents et jeunes adultes, et aussi réduire le nombre de patients hospitalisés, évidemment, bon, en favorisant le maintien des soins à domicile. Donc, c'est un autre développement dans le dossier des transferts fédéraux en santé. Donc, on rappelle que le Québec, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta n'ont toujours pas signé cette entente.
Donc, cette saga n'est pas terminée.
Cette saga n'est pas terminée. Là-dessus. Vous pouvez compter sur moi, Marianne, pour suivre le dossier pour vous.
Toujours du côté de la Colombie-Britannique, on tente de combattre la crise des opioïdes.
Oui, donc c'est une crise pancanadienne, donc ces overdoses d'opioïdes. C'est un problème qui touche à plus forte raison la Colombie-Britannique, notamment en raison de la très forte hausse de consommation de fentanyl, qui est un opioïde, oui. Justement. Donc, on parle d'une hausse de financement de 65 millions de dollars au Canada et 10 millions de dollars seulement pour la Colombie-Britannique. Ça a été annoncé par la ministre Jane Philpott, ça a été rapporté par Radio-Canada le 17 février dernier. Donc, on cherche ainsi à combattre cette flambée d'overdose, cette flambée de consommation également. On dit que plus de 900 personnes sont décédées de surdose l'année dernière, une augmentation de 80 % en 2015 seulement. Et le ministre de la Santé, Terry Lake, qui ajoute que le taux de surdose mortelle de drogue illicite a diminué de 18 % entre décembre et janvier en Colombie-Britannique. Par contre, la situation, évidemment, demeure grave malgré cette petite fenêtre, cette petite lueur d'espoir.
Oui. Et en ce sens, Santé Canada veut des autocollants sur les opioïdes. Ça signifie quoi, ça?
Bien, on veut que les patients canadiens soient un peu plus sensibilisés aux dangers de la consommation d'opioïdes, même de façon légale, même de façon prescrite.
Curative,
oui, peut-être.
Ouais.
Oui, parce que malgré le fait qu'on en prescrit quand même une quantité assez appréciable, ça demeure quand même un médicament qui peut créer une dépendance et donc qui peut mener par la suite à la consommation d'opioïdes illicites. Donc, Santé Canada veut que des autocollants avertissent de ces dangers-là, veut aussi distribuer des fiches de renseignements qui viennent vraiment expliquer aux patients ce que ça comprend, cette consommation d'opioïdes, et ainsi faire des meilleurs choix et ainsi favoriser aussi la suite, souvent après le traitement.
Un peu ce qu'on a pu observer avec la lutte contre le tabac.
Tout à fait.
Ouais. Maintenant, une corrélation entre la multiplication des dons d'organes et une vague d'overdose.
Oui, ça a été noté, ça a été rapporté sur LCI, qui est un média français. Donc, une petite corrélation qui est rapportée par Devin Landsberg, qui est le directeur des services médicaux de transplantation de la province de Colombie-Britannique. Donc, il y aurait plus d'organes disponibles, étant donné la hausse fulgurante de décès reliés à la consommation.
Donc, c'est comme une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à la fois.
C'est une espèce de bien pour un mal. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Par contre, on prévient que, évidemment, des précautions majeures sont prises, puisqu'on s'assure évidemment que les drogues sont éliminées du corps avant de procéder au transfert. On s'assure aussi que tout ça soit, que les organes soient également stériles, c'est normal, mais qu'ils soient dépourvus de maladies.
De
maladies, parce qu'évidemment, la consommation de drogues injectables est reliée directement aux ITSS, au SIDA notamment.
Oui. Et rapidement, Martin Forgue, une étude sur la santé des jeunes Québécois que vous avez pu recueillir sur quelle Sur le site de Statistique Canada?
Ben, en fait, c'est l'Institut de la santé du Québec qui passe sur la route, qui veut mettre à jour des données qui datent de 2010-2011. Donc, ce sont 65 000 jeunes de secondaire 1 à 5 qui seront invités à répondre à un questionnaire sur leur santé. Un questionnaire d'environ une trentaine de minutes. Et donc, juste pour donner une idée, les données passées qu'on voudrait mettre à jour. En 2010-2011, 11 % des élèves faisaient usage de la cigarette. 30 % seulement atteignaient le niveau recommandé d'exercice, qui est de 30 minutes d'activité par jour. 25 % des élèves avaient consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois. Et donc, on veut voir si la tendance se maintient, s'il y a des hausses ou des baisses quant à ces statistiques.
Sur l'Institut de la statistique du Québec.
Tout ça est à suivre également.
Martin Fort, merci beaucoup. Aïd-Elisa Mondragon, bonjour.
Mais merci beaucoup, Marianne, de m'avoir invitée dans votre programme.
Vous êtes docteur en informatique cognitive à l'UQAM, oui. Également maman de trois enfants qui vivent avec l'autisme. Oui. Vous êtes accompagnée de votre directeur, M. Roger Nkambou. Votre titre exact, M. Nkambou?
Oui, je suis professeur au département d'informatique à l'UQAM.
Alors, Madame Aïd-Elisa Mondragon, on parle ici de ce tutoriel que vous avez créé, qui est en fait un jeu mathématique interactif où l'enfant est en interaction avec un avatar que l'on nomme Jesse, une façon pour permettre un meilleur apprentissage des mathématiques aux enfants, mais aussi pour mieux saisir les émotions qu'ils vivent et
absolument.
Ainsi mieux les gérer. Comment vous est venue cette inspiration? Je sais que c'est beaucoup par l'observation de vos enfants et peut-être aussi en détectant un manque de ressources.
Oui, oui. Bon, en fait, plusieurs choses sont parvenues. Tout d'abord, je voulais juste peut-être mentionner que ma journée dans l'espèce de l'autisme a débuté vraiment avec le diagnostic de mes trois enfants. Mais chaque enfant a été diagnostiqué avec un type différent d'autisme. Ils sont vraiment ma source de motivation, leur persévérance, ma source d'inspiration à poursuivre cette recherche qui me tient au cœur. Il y a longtemps, en 2006, il y avait mon fils le plus jeune qui, lui, il avait des gros problèmes de comportement. C'est un enfant qui n'était pas verbal. Et ça, en fait, ça fermait toutes les portes des écoles pour lui. Aujourd'hui, mes enfants sont toujours des enfants autistes, mais mon travail et ma recherche ont contribué à les aider et à les intégrer dans des écoles régulières. Et c'est ça, évidemment, ce qu'on aimerait et que je souhaite pour tous les parents dans cette situation que j'ai vécue avec mes enfants, que Jessie est donc une solution qui pourrait permettre d'offrir un service d'accompagnement et d'intervention individualisée aux enfants qui auront besoin.
Oui. À aider ce logiciel, comment il fonctionne?
Oui, oui. En fait, il y a une partie qui est importante de prendre en considération, c'est la partie des émotions et l'apprentissage. Ça a été reconnu comme un défi important et majeur chez les personnes autistes. Par exemple, chaque enfant autiste est différent et au cours d'une intervention, un des défis majeurs est donc la capacité d'anticiper et de reconnaître le comportement négatif et en conséquence de calibrer l'état affectif de l'enfant pour une intervention efficace qui soit propice donc à l'apprentissage. Dans notre recherche, nous avons proposé le ISLA, qui est un Integrated Specialized Learning Application, qui est un système tutoriel intelligent affectif qui évolue avec les besoins de l'apprenant dans le but de fournir un enseignement individualisé à temps réel, aussi efficace que celui d'un tuteur humain. Là, je vais brièvement expliquer un peu comment est-ce que ça fonctionne. ISLA comporte donc un modèle computationnel d'accompagnement qui lui permet d'aider l'enfant autiste à gérer la composante émotionnelle. Elle prend donc en considération le profil cognitif et le profil affectif de l'enfant, des théories d'autorégulation, des théories de du comportement comportemental en autisme et une ingénierie pédagogique sont au cœur du système. Ces théories et ces fondements ont été donc mis en œuvre dans ISLA grâce aux techniques de l'intelligence artificielle intégrées dans l'agent intelligent qui s'appelle Jesse, qui est en fait le compagnon de l'enfant.
C'est l'avatar.
C'est l'avatar, évidemment, effectivement. Et c'est lui, en fait, qui aide la personne autiste à calibrer ses émotions. Il va considérer alors la trace d'apprentissage et la performance actuelle de l'enfant. Il va capturer, il va analyser en temps réel la trace d'apprentissage et les données d'interaction non verbale, comme par exemple les émotions, les regards, et procède à un diagnostic cognitif et affectif de l'apprenant autiste pour prendre des mesures d'intervention appropriées qui soient propices à l'apprentissage.
Le tutoriel a été testé sur deux groupes d'enfants, des enfants âgés entre 6 et 12 ans qui vivent avec l'autisme.
Oui.
Peut-être, M. Nkembu, qu'est-ce que vous avez pu observer au cours de ces tests-là?
Oui, merci, Mariam. Donc, c'est effectivement une étude très, très sérieuse où on a eu accès donc, à ces groupes d'enfants qui ont été séparés en deux groupes, donc un groupe avec Jesse et un groupe sans Jesse. Et je pense que les données qui ont été capturées, l'analyse des résultats suite à l'intervention de Jesse dans le groupe avec Jesse, là, a
Jesse
été
qui est l'avatar.
Voilà, donc ça a été absolument très, très intéressant. On a remarqué, par exemple, que ces enfants-là, avec plus la capacité à contrôler leurs émotions, avaient plus réussi, en fait, que ceux qui n'avaient pas été exposés à... Avec Jesse. Voilà.
Ce qui dénote que l'apport de Jesse, l'avatar, au sein de ce jeu interactif est très signifiant. Quelle est l'importance de cet avatar au sein de votre jeu?
Oui, en fait, vraiment, le rôle, en fait, il y a un rôle qui est très, très, très important. C'est qu'en fait, on a eu le résultat, c'est qu'avec l'avatar, les résultats ont démontré que le comportement, il y avait moins de comportements négatifs chez l'enfant autiste, tels que l'anxiété, la colère, la frustration, le désengagement. Ils étaient plus encouragés, plus motivés à finir l'activité. Et puis le rôle du compagnon Jesse, et c'est justement ça le point essentiel, de l'aider à calibrer sa partie émotionnelle. Et puis, de cette façon aussi, de rendre l'enfant plus autonome.
Oui.
Il va être plus en contrôle de son propre apprentissage. Et aussi, en même temps, il va être plus...
apte à apprendre. Oui.
Parce que c'est ça vraiment le but de la technologie, que l'enfant soit capable de s'engager et qu'il soit capable de finir l'activité qu'on lui demande.
Oui. En terminant, où en est rendue la commercialisation du jeu interactif, ISLA?
Bon, c'est une bonne question. Bon, tout d'abord, il y a eu un prototype du système qui a été développé. Là, on continue notre recherche en ce moment. Et là, on va faire une partie expérimentale du système encore avec Jesse et sans Jesse, mais avec un échantillon d'enfants beaucoup plus élargi. Je me suis fait solliciter par les universités des États-Unis. Et là, avec professeur Kambou, nous travaillons actuellement avec une équipe de l'Université Caroline du Nord pour finaliser le développement. En fait, la technologie est en cours de brevetage US Patent Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir fournir un peu plus de détails.
Parce que l'objectif est que ce logiciel-là, hein, ou tutoriel, oui, soit accessible dans les écoles, oui, et peut-être même éventuellement, oui, auprès des familles, être utilisé, sûr, par les parents.
Oui, 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 en fait, si j'ai encore quelques minutes, ça serait quelques important.
Quelques secondes.
En fait, c'est important de mentionner que en ce moment, une problématique majeure lorsqu'on parle de l'éducation spécialisée, c'est le manque d'intervention one. Oui, voilà. Donc, justement, ce système-là peut aider à surmonter le manque d'intervention personnalisée qui, à mon avis, est essentiel pour n'importe quel enfant dans l'espèce de l'autisme.
À aider Lisa Mondragon, docteur en informatique cognitive, et Roger Cambou, lui, professeur au département d'informatique, tous deux de l'UQAM. Oui. Merci beaucoup. Docteur Langis Michaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes optométriste, professeur titulaire à l'École d'optométrie de l'Université de Montréal et président de l'Ordre des optométristes du Québec. Et on est là aujourd'hui pour rappeler les bons gestes à faire lorsque l'on porte des lentilles de contact. C'est une idée qui m'est venue suite à un texte paru dans la presse plus tôt cet hiver qui parlait de maladies oculaires assez grave, mais assez rare aussi, lié au port de lentilles de contact. Aujourd'hui, on veut vraiment parler aux gens qui utilisent des lentilles de contact au quotidien, sans non plus nécessairement dramatiser, mais il y a quand même des infections et des complications qui peuvent être liées au port de lentilles de contact.
Tout à fait. Il faut d'abord rappeler aux gens, donc, d'une part, que la lentille de contact, bien que devenue relativement conventionnelle et objet d'usage courant, demeure un corps étranger qui est en contact avec toi et qui peut donc effectivement être un véhicule de choix pour des bactéries, des virus, des pathogènes qui sont dans l'air, dans l'eau, qui sont en contact avec nos mains et qu'on peut transmettre directement à l'œil. Et l'œil est un milieu très fragile. Il s'agit d'une petite égratignure à la surface de l'œil et ça devient une porte d'entrée ouverte pour que ses petits amis viennent s'y incruster et fassent certains dommages.
Oui. Est-ce que c'est courant, ce genre de complications?
Heureusement, avec l'évolution de la technologie, on voit un petit peu moins de cas extrêmement graves. Par contre, on voit beaucoup de cas où je dirais qu'une certaine négligence a été apportée.
Mm-hmm.
L'autre élément important qu'il faut rappeler aux gens, c'est que, donc, comme c'est un corps étranger, Santé Canada, l'an passé, a finalement adopté une législation les classifiant comme étant des « medical devices », donc des objets médicaux qui ne doivent être obtenus que sous prescription.
Mm-hmm.
Or, avec le développement d'Internet, avec le développement de certaines pratiques, avec la vente de lentilles colorées sans force dans les salons de coiffure puis de boutiques d'Halloween,
oui, sur eBay ou bon, n'importe où. Là.
Donc, les gens peuvent se procurer plus facilement ce type de lentilles-là, mais sans nécessairement avoir recours au service d'un professionnel, que ce soit un opticien ou un optométriste. Et il faut vérifier, la première chose qu'il faut vérifier, c'est d'abord inventer, est-ce que l'œil est capable de porter une lentille? Est-ce qu'il est en santé suffisamment? Est-ce qu'il y a déjà des facteurs de risque? Je vous donne un exemple. Avec l'âge, on développe souvent l'accumulation de petits amis, là, dont je mentionnais tantôt, le long des paupières, qui ne font pas nécessairement d'infection, mais ils colonisent nos cils, ils colonisent nos paupières, puis ils ne causent pas nécessairement des petits trous jaunes, mais des fois, on a des petites croûtes le matin quand on se lève ou des choses comme ça, mais c'est des signes de présence. Donc, si on met une lentille de contact sur cet œil-là, ben, il y a plus de chances qu'il développe une infection, une conjonctivite, un œil rouge, éventuellement un ulcère, comme il était question dans la presse, et là, ça peut avoir des conséquences très dramatiques sur la vision, mais souvent, ça va être plus minable, c'est quand même des désagréments, puis on met notre œil à risque.
Ouais.
Alors, il faut voir donc que l'œil est bien en santé d'abord. Et le deuxième élément qui est très important, c'est d'être sûr que les lentilles de contact nous font bien. Je vous donne l'exemple d'un vêtement. Bien, il y a du small, il y a du medium, il y a du large, il y a du extra-large. Dans les lentilles, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une taille unique pour tout le monde. Et il y a des yeux plus grands, il y a des yeux plus petits, il y a des cornées plus grandes, il y a des cornées plus bombées, il y a des cornées moins bombées. Alors, si la lentille est mal adaptée, c'est là qu'elle va irriter l'œil. En irritant l'œil, elle crée les portes d'entrée dont je faisais mention tout à l'heure. Et là, nos petits amis qui sont déjà là et souvent le long des paupières.
Oui, en profite.
En profite.
Docteur Michaud, il y a des règles de base, de sécurité à observer oui. lorsque l'on porte des lentilles de contact. Et beaucoup de gens oublient que la baignade est peut-être préférable sans lentilles de contact.
Tout à fait. L'eau est un véhicule merveilleux pour les pathogènes. Je vous dirais de l'eau qui est non stagnante, là. Donc si on ne parle pas d'un lac, mais d'une rivière, par exemple, qui coule à flot vif, c'est un petit peu moins dangereux. Un lac, c'est sûr que c'est un lac qui est relativement stagnant, c'est une soupe de bactéries. Le pire dans nos environnements réguliers, c'est les spas. Mm-hmm. Les gens qui gardent leurs lentilles pour aller prendre leur spa, là, c'est comme s'ils essayaient de traverser l'autoroute métropolitaine à pied en heure de pointe. Alors, c'est de jouer à la roulette russe à chaque fois. Il n'y a pas un spa, malgré tout l'entretien qu'on va faire, qui n'est pas bourré de pathogènes et bourré de bactéries, de virus, de protozoaires, d'acanthamides. Dans l'article, on mentionnait l'acanthamide, donc c'est un protozoaire qui se nourrit des autres bactéries. Donc, ça, c'est très, très important. Et donc, ne pas jamais se baigner avec les lentilles, c'est important, bien sûr.
Est-ce qu'on peut dormir avec nos lentilles de contact?
Là aussi, on augmente significativement le risque. On augmente de 5 à 10 fois le risque par rapport à si on les enlève à tous les jours. Même pour une petite sieste de 5 ou 10 minutes là, sur l'heure du midi, il faut se comprendre que quand on ferme l'œil, il y a une absence d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'une bactérie aime le mieux au monde? Pour se reproduire puis devenir un peu plus virulente, c'est être à l'absence de lumière, donc il n'y a pas d'UV à présent, c'est à l'humidité, donc évidemment la fleur de l'œil est humide. Le clignement n'est pas là. Quand on cligne mm-hmm. à tous les jours, on chasse les bactéries. Pour la bactérie, c'est plus difficile de s'accrocher parce qu'on cligne. Durant la nuit, on ne le fait pas. Les larmes sont beaucoup moins produites. Donc, on a toutes les conditions réunies pour que ce soit beaucoup plus dangereux. Donc, idéalement, à moins d'avis du médecin, de l'ophtalmologiste ou de l'optométriste, dans certaines circonstances extrêmement particulières, on va recommander un port de nuit. Mais de façon générale, monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, on dort pas avec nos lentilles.
Maintenant, règle d'hygiène, on ne lave jamais ses lentilles avec de la salive. Ça peut sembler, on peut penser que ça va de soi, là, mais parfois en camping, on pourrait être mal pris, mais vraiment, on ne fait pas ça.
Je vous conterai l'anecdote d'un patient qui m'est arrivé en urgence à un moment donné. J'étais en bureau privé à l'époque. Dans le temps de Noël, il était en visite. Je devais le dépanner parce qu'il avait perdu ses lentilles. Je lui pose les questions. Il avait entreposé, il était resté alors qu'il ne devait pas là, chez quelqu'un le soir. Bon, c'est très prudent parce qu'il avait pris un verre et il ne voulait pas conduire. Mais il avait enlevé ses lentilles de contact, il avait entreposé dans un verre d'eau parce que c'est tout ce qu'il avait à portée de main. Et durant la nuit, il avait bu ses lentilles.
Oh là là!
Donc, jamais d'eau du robinet en contact, ni avec les lentilles, ni avec l'œil. Même dans la douche, il y a des infections rapportées où on a gardé nos lentilles dans la douche. Et dans la douche, il y a de l'eau. L'eau était contaminée. Il y a eu une contamination des yeux et production de douceur d'une infection majeure. Donc, jamais, jamais d'eau. Ça implique aussi, évidemment, il faut se laver les mains avant de manipuler les lentilles, mais il faut bien les assécher et les assécher avec une serviette propre. Si vous utilisez la même serviette depuis une semaine, écoutez, là, elle va marcher toute seule. Il y a de bactéries là-dedans.
Et on utilise la solution et non pas la salive. C'est tout le temps qu'on a, Dr. Langis-Michaud. Vous êtes optométriste, professeur titulaire à l'École d'optométrie, président de l'Ordre des optométristes du Québec. Merci beaucoup. Et on en aurait eu long encore à dire, on vous réinvitera.
Merci et consultez vos professionnels pour avoir les bons conseils.
Merci, docteur Michaud. Vous écoutez toujours C'est bon pour la santé, toujours Marianne Paquette avec vous. Je vous rappelle ce qui s'en vient tout à l'heure. On parlera de comment utiliser le logiciel bien connu Antidote pour stimuler l'apprentissage de la langue chez des enfants qui éprouvent certaines difficultés d'apprentissage. Et aussi la consommation d'alcool avec Hubert Sassy, lui, directeur général d'Éducalcool. Il est en ligne. Hubert Sassy, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui de consommation d'alcool chez les personnes âgées en lien avec un document que vous avez publié, une étude en fait que l'on retrouve sur votre site où on peut y lire quelques statistiques qui sont quand même assez préoccupantes, à savoir que en 2016, 18 % des personnes de 65 ans et plus consomment peut-être une grande quantité d'alcool. On y reviendra sur cette quantité-là bien exactement. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que à travers les années, cette consommation d'alcool inquiétante pourrait augmenter, à savoir 24 % en 2026 et 30 % en 2051. Qu'est-ce qui pourrait expliquer d'abord ces chiffres-là, Hubert Sassier?
Il faut savoir que les baby-boomers, qui sont une génération qui ont eu beaucoup plus d'argent que leurs parents, avaient développé, quand ils étaient sur le marché du travail et dans leur vie sociale, des habitudes de consommation. Prenez un verre ou deux. Il y avait l'alcool a beaucoup fait partie de la vie en société. Je vous parle pas évidemment des repas d'affaires et autres, etc. Et ces gens-là, en vieillissant, ils ont pris leur retraite, ils ont vieilli, ils ont atteint un certain âge et ils ont continué à garder les mêmes habitudes de consommation. Mmh. Alors que, en réalité, à partir du moment où on prend de l'âge, et je ne dis pas où on vieillit, mais passé 65 ans, la quantité d'eau dans le corps diminue et par conséquent, l'alcool fait un effet beaucoup supérieur que lorsqu'on est plus jeune. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on vieillit, on a un certain nombre de symptômes qui arrivent et qui devraient nous donner des signaux si nous étions arrivés plus jeunes. Mais comme on est vieux, on attribue ça à la vieillesse et on n'attribue pas ça nécessairement à la consommation d'alcool. Autrement dit, les signaux qu'on reçoit lorsqu'on est jeune et qu'on consomme trop et qui nous disent « oh, fais attention », on les attribue à la vieillesse au lieu de l'attribuer à l'alcool, ce qui fait que ça fausse la perception.
Ouais.
Alors, ces deux facteurs combinés, donc les moyens, davantage de moyens, davantage d'argent dans leur poche et des habitudes de consommation, plus une mauvaise interprétation des signaux, ben, ça fait en sorte que, maintenant, on ne dit pas qu'il y a les gens qui ils sont sous morts toute la journée, mais que la consommation excessive augmente en termes de pourcentage de gens qui boivent au-delà des limites recommandées.
Oui. Est-ce que ces chiffres-là vous ont étonné, Hubert Sassier?
Non, pas vraiment. On voyait la tendance arriver. Vous savez, ce qui est intéressant lorsqu'on étudie les phénomènes à plus long terme, c'est qu'on les voit venir. À partir du moment où les premières personnes qui sont nées après la fin de la Deuxième Guerre mondiale ont commencé à prendre leur retraite, on a commencé à voir cette espèce d'augmentation, mais au départ, on n'est pas sûr à quoi on peut l'attribuer, on n'est pas en mesure de la chiffrer de manière précise. À partir du moment où on a 5, 6, 7, 8, 9 catégories d'âge qui sont rendues, là, ça devient un peu plus facile et on peut dire, bon, ben voilà, il y a une tendance qui est là. Encore une fois, c'est très, très important de faire attention, d'être vigilant, de suivre les tendances et surtout d'indiquer aux gens, de donner aux gens des conseils qu'ils sont libres de suivre ou pas, évidemment, c'est comme ils le souhaitent, mais au moins de les informer et de les éclairer sur la situation.
D'ailleurs, ce fascicule d'informations qu'on retrouve sur votre site, ou plutôt cette étude, elle s'adresse, oui, bien sûr, aux personnes aînées, mais également à leurs proches. Hein? C'est ce que vous tentiez de deviser.
Ah oui, absolument. Les proches de la famille, les proches aidants, et parce que il faut savoir que il y a un certain nombre de phénomènes qui sont caractéristiques des personnes âgées. La première, et il ne faut pas qu'on oublie de le dire, c'est que il y a de manière assez systématique de la médication qui est prise. À partir de 55-60 ans, il y a 80 % des gens prennent au moins un médicament par jour, que ce soit pour le cholestérol, que ce soit pour le diabète, que ce soit pour enfin toutes sortes de raisons. Par conséquent, il y a une interaction entre les médicaments et l'alcool. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de boire de l'alcool, ça veut dire qu'il faut être attentif à ça. Et donc, pharmaciens, infirmières, mes proches aidants aussi, et la famille. Pourquoi? Parce que les personnes âgées, ou les aînés, il est préférable de les appeler ainsi, sont des gens qui sont extrêmement soucieux de l'image qu'on a d'eux. Ils veulent voir leurs enfants ou leur famille. Et ils se disent, il ne faut pas que je chiale trop, parce que si je me plains trop souvent, eh bien peut-être qu'ils ne voudront plus venir me voir. Par conséquent, il y a une espèce de réserve qu'il y a à exprimer ce que l'on ressent. On ne veut pas déranger, on devient de plus en plus délicat. On n'ose pas poser de questions ou on n'ose pas faire part des craintes pour ne pas paraître chialeux un peu. Et par conséquent, c'est très très important d'aller au-devant des coups et d'essayer de leur poser des questions les soignants, les médecins, les infirmières doivent poser des questions aux aînés sur leur consommation, sur les symptômes qu'ils ressentent peut-être liés à cette consommation-là. Mm-hmm. Et les jeunes, les plus jeunes, doivent être très, très attentifs au changement de comportement, au silence qui a lieu. Bref, être à l'écoute davantage, non pas des mots que les gens expriment, mais de ce qu'ils tentent de vivre sans nécessairement le dire.
Je vous écoute, Hubert Sassy, et je me dis, ce désir de ne pas vouloir déranger amène peut-être aussi à ne pas refuser une consommation d'alcool, à vouloir reproduire les habitudes de vie que l'on avait avant, même s'il y a consommation de médication ou il y a un changement dans l'état de santé qui ne nous permet plus de consommer de l'alcool.
Il y a effectivement ça. Il y a aussi le fait que, pour des gens, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que quand passé 65 ans, c'est mieux vraiment de te limiter à 2 verres par jour pour les femmes et à 3 pour les hommes. Mmh. Mais vraiment, sans exception, avec au moins 1, sinon 2 journées d'abstinence par semaine. Maintenant, ils ne le savent pas, par conséquent, ils ne le pratiquent pas. Ensuite, il y a effectivement ce qu'on appelle l'environnement social, la pression sociale. Mmh. Le fait de dire qu'on ne refuse pas. Et il y a enfin une troisième chose que vous connaissez sans doute, c'est l'espèce de légende urbaine qui veut que les gens qui vivent 100 ans, ben, c'est parce qu'ils ont pris le petit verre de gin à tous les jours pendant je ne sais pas combien d'années.
C'est vrai, etc. qu'on entend ça parfois.
Ben oui, bien sûr, il y a cette espèce de légende urbaine. Ceci dit, ça ne fait pas de tort de prendre son petit verre de gin par jour, là, mais ce n'est pas pour ça qu'on a vécu 100 ans. Il ne faut pas boire de l'alcool comme on prend un médicament. Là. L'alcool, ce n'est pas un médicament, puis les magasins d'alcool, ce n'est pas des pharmacies. Mm-hmm. On boit de l'alcool parce qu'on aime ça, parce qu'on trouve que c'est agréable, et on le boit avec modération. Quand on est une personne aînée, on fait attention à la médication qu'on prend, on s'exprime, parce qu'eux aussi, s'ils s'exprimaient, ça aiderait beaucoup, et quand on s'en occupe, soit parce qu'on les soigne, soit parce qu'on est de leur famille, on pose des questions et on est très attentif.
Je veux revenir sur les facteurs qui poussent les personnes aînées à consommer de l'alcool de façon dangereuse. Vous avez parlé tout à l'heure, Hubert Sassy, de tout ce qui est lié aux facteurs socio-économiques, des habitudes de vie que l'on avait pendant la vie active. Mais il y a aussi l'isolement qui peut être mis en cause, mais également la retraite mal planifiée.
Oui, parfaitement. Alors là, vous avez utilisé un mot, consommation dangereuse. Et on a utilisé les mots consommation excessive. Avec votre permission, on va distinguer les deux.
Oui.
La consommation excessive, on en est conscient. On sait qu'on boit. La consommation dangereuse, on n'est pas conscient. Mm-hmm. C'est dangereux, mais on ne le sait pas. Il n'y a personne qui fait exprès nécessairement en se disant « je vais me nuire à moi-même ». Donc, par exemple, pour des personnes qui prennent un certain nombre de médicaments et qui prennent de l'alcool, ça peut être dangereux, pas parce qu'elles ont trop bu, mais simplement parce qu'il ne faut pas boire avec ce médicament-là.
Ouais.
Cela dit, effectivement, vous avez parfaitement raison de souligner les autres facteurs qui sont des facteurs d'ordre psychologique. Par exemple, il y a un couple, ils ont vécu toute leur vie ensemble, ils ont été extrêmement heureux, il y en a un qui meurt. La sensation de solitude et de peine qui arrive au second, à celui au survivant des deux, ça peut être un facteur de consommation excessive d'alcool. L'ennui. On n'a pas planifié sa retraite. On avait l'habitude de partir pour le travail à 7 heures du matin, de rentrer à 6 heures du soir. On était actifs. On a mal préparé sa retraite. On ne s'est pas mis des activités. Et là, les deux premiers mois, c'est le bonheur total parce qu'on ne fout rien. Et après, on commence à s'ennuyer à mort parce qu'on ne fait rien non plus.
Ouais.
Alors, ça aussi, là, la préparation à la retraite, quitter le marché du travail. Écoutez, on passe au moins le tiers de notre vie à notre boulot. Lorsque ce tiers-là est amputé, et qu'on n'a pas préparé une transition vers le remplir le temps qui va être libéré par le fait qu'on n'est plus au travail, et je dis le tiers, pour bien des gens, c'est des fois peut-être plus que le tiers de leur travail, ça crée un vide immense, et il ne faut pas combler ce vide-là par l'alcool, il faut le combler par des activités.
Oui, et par un réseau social qui est riche, qui manque parfois, on a parlé d'isolement, Hubert Sassy, je m'adresse aux proches en ce moment, comment reconnaître qu'un de nos proches, une personne aînée, vit des problèmes de consommation liés à l'alcool?
Alors, il y a 2 ou 3 manières. D'abord, les modifications dans les comportements. Là, c'est vrai que la perte de mémoire, c'est un phénomène qui arrive avec l'âge, mais ça peut être le résultant d'une consommation d'alcool. À s'assoupir, tu t'endors, tu es en train de parler dans une conversation. Oui, c'est vrai, ça arrive à des personnes âgées qui n'ont pas touché une goutte d'alcool. Mais ça peut être aussi un phénomène comme celui-là. Mais surtout, ce qui est très important, c'est de parler, le dialogue, la communication. Mm-hmm. On pose des questions. Si on voit que les gens sont gênés de répondre, ben, ça doit lever un petit drapeau pour dire « Oh, oh, il y a peut-être quelque chose là ». C'est important d'aller vers eux, de leur montrer qu'on se préoccupe de leur sort, d'être très attentif, d'être observateur, si on voit un certain nombre de signaux de cette nature-là. Et évidemment, essentiellement, dialoguer, communiquer, c'est la seule façon. Mais il faut savoir que si les gens veulent cacher des choses, il y a des gens qui ont caché des secrets absolument incroyables toute leur vie, qui les ont emportés avec eux dans leur tombe, mais au moins, les gens autour des personnes aînées doivent faire l'effort d'aller vers eux, de leur poser des questions, de s'intéresser à eux et de leur montrer que par beaucoup d'amour, que c'est que ce qu'on le fait dans leur intérêt, quoi, mm-hmm. et non pas par curiosité malsaine.
Vers qui on se tourne si on a besoin d'aide, qu'on soit une personne aînée ou un proche qui vit avec des problèmes de consommation d'alcool?
Alors, ça dépend de la nature de ces problèmes-là. Si ce sont des problèmes de nature médicaux, c'est clair qu'il faut se tourner vers les professionnels de la santé, infirmières, médecins. Pharmacien à la rigueur si c'est un problème d'interaction médicamenteuse. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais si ce sont des problèmes de dépendance, eh bien là, il faut immédiatement consulter dès qu'on en est conscient. Et le problème, c'est que généralement, quand la dépendance s'installe, on n'en est pas conscient au début. Et par conséquent, à partir du moment où on en devient conscient, ben on consulte ou bien son CLSC ou bien on s'inscrit à un programme qui s'appelle AlcoChoix Plus, qui permet de bien contrôler sa consommation. Allez sur le site de votre CLSC et vous pourrez voir s'il offre le programme et à quel moment. Ça s'appelle AlcoChoix Plus. Et si on est vraiment, vraiment dépendant, ben là, il faut aller dans des centres de traitement de dépendance.
Oui. Et se rappeler qu'il y a des impacts sur la santé, de mélanger alcool, médicaments et, bon, tout ça avec les impacts sur le vieillissement. En terminant, Hubert Sassy, on sait qu'Éduquer Alcool a mis énormément d'attention et d'études sur la consommation des jeunes avec de nombreuses campagnes. Est-ce que vous allez continuer au cours des prochaines années à observer la tendance de consommation d'alcool chez les personnes aînées?
Absolument. Chez les aînés, chez les jeunes et dans la population en général. D'ailleurs, cette année, en 2017, c'est l'année au cours de laquelle nous menons la très, très grande enquête quinquennale que l'on fait tous les 5 ans, depuis 30 ans déjà. Donc, on est capable de suivre l'évolution de la consommation d'alcool des Québécois de tous âges, de tous sexes et de toute région. Et nous allons avoir les résultats quelque part au mois de mai, au mois de juin. Et ça va être vraiment, on va être en mesure de suivre tout ce comment ça s'est déroulé depuis 1991 jusqu'à nos jours à tous les 5 ans.
Hubert Sassy, vous êtes directeur général d'Éduc'alcool et je rappelle qu'on peut consulter cette étude sur votre site. Ça s'intitule « L'alcool et les aînés » sur éducalcool.qc.ca. Merci beaucoup.
Merci infiniment. Bonne journée.
Au revoir. Dolores Tam, bonjour.
Bonjour, comment allez-vous?
Je vais très bien, vous-même?
Très bien.
Vous êtes formatrice de Druide Informatique et là pour nous parler de comment le logiciel Antidote, qui est bien connu auprès du grand public comme un logiciel de correction de texte, autant côté grammaire et orthographe, peut faciliter l'apprentissage de la langue chez des enfants qui vivent avec différents troubles d'apprentissage. De quelle façon vous êtes arrivé à cette conclusion qu'Antidote 9 pouvait aider ces jeunes-là?
Bien, en fait, ça remonte à des éditions antérieures à Antidote 9. Ça fait déjà plusieurs années que le logiciel est utilisé de concert avec d'autres types de logiciels complémentaires pour aider les gens en trouble d'apprentissage. Il n'y a évidemment pas que les enfants. Il y a aussi de grandes personnes là-dedans. Mm-hmm. Maintenant, c'est un petit peu comme ce qui est arrivé avec Fleming et la pénicilline. Antidote est un logiciel grand public au départ, mais on s'est rendu compte sur le terrain qu'il pouvait être d'une aide incroyable auprès des jeunes qui avaient des problèmes de dysorthographie, de dyslexie. Maintenant, il ne fait pas que la correction. Et ça, c'est une erreur qui est très, très, très répandue. Il s'agit d'une suite linguistique. Donc, moi, en fait, je me fends en quatre avec grand plaisir pour trouver des modes d'accompagnement d'Antidote en écriture à l'intérieur du processus d'écriture dès l'étape de la planification qui est souvent négligée, surtout en contexte de troubles d'apprentissage. Alors, je me prépare à écrire. Qu'est-ce qu'Antidote peut m'offrir? Et là, on va utiliser, on peut même préparer des documents pour l'enfant qui vont l'aider. On va aller faire de la collecte de vocabulaire dans le dictionnaire du champ lexical. On va déjà aller trouver des synonymes. Il y a un dictionnaire d'un million de synonymes. Et je peux afficher la définition en simultané, ce qui est salutaire, vous l'avouerez, pour choisir le bon synonyme. On va aller dans le dictionnaire des co-occurrences. Alors, un jeune enfant qui veut écrire un texte, par exemple, où il y a un repas... tiens, la Saint-Valentin vient de passer, un repas de Saint-Valentin entre amis, dans son jeune, trouvera dans le dictionnaire des co-occurrences son plan d'écriture, parce que parmi les co-occurrences, on aura planifié le repas, préparé le repas, cuisiné le repas, servir le repas, déguster le repas. Alors, il sait déjà, il peut l'utiliser, et mieux structurer sa pensée en prévision de l'écriture. Évidemment, le correcteur, il n'est pas seul, mais il est là. Il est très précieux. Il nous permet aussi de faire du repérage dans le texte. Et ça aussi, c'est méconnu. Je peux demander à l'interface de correction, qui est en fait l'interface d'analyse, d'indiquer en surbrillance tous les éléments temporels d'un texte. Donc, si dans les consignes de l'enseignant, on nous a dit, écoute, tu vas faire la critique de la pièce de théâtre que nous sommes allés voir avec le groupe, et tu dois absolument me donner la date de naissance de l'auteur, la date à laquelle on est allé voir la pièce, la date à laquelle la pièce a été écrite, bref, j'ai quelques consignes comme ça. Je peux, en indiquant tous les éléments en surbrillant, je peux même discriminer juste pour qu'il m'indique les dates qui sont mentionnées dans le document. L'enfant peut vérifier s'il a obéi à toutes les consignes en se concentrant sur cet aspect-là. Et c'est souvent là où le bas blesse. Les troubles d'apprentissage incluent souvent une difficulté de concentration, un déficit de l'attention. Alors, dès qu'on peut les aider à se concentrer sur quelque chose, c'est très, très, très nourrissant.
La surbrillance amène l'attention, en fait.
Et voilà. Oui. Je peux indiquer en surbrillance tous les adjectifs.
Oui.
Je peux indiquer en surbrillance tout ce que je veux. Et là, je vous laisse parler parce que j'ai l'impression de prendre le terrain.
Vous avez nommé tout à l'heure que Antidote, cette méthode d'apprentissage s'adresse à des jeunes qui vivent avec soit la dyslexie ou la dysorthographie. À partir de quel âge on peut utiliser Antidote pour aider ces élèves?
Écoutez, si je parle des dictionnaires, en tant qu'ouvrage de référence, les co-occurrences, définitions, tout ça, dès le deuxième cycle du primaire.
D'accord.
Ils peuvent l'utiliser. Il faut être en mesure, en fait, de lire et de comprendre un dictionnaire de type junior, de lire ou de se faire lire, parce qu'il y a des enfants qui utilisent la synthèse vocale. Il y a d'autres logiciels qui peuvent lire le contenu d'Antidote. En matière de correction, pour les enfants en trouble d'apprentissage, avec accompagnement, donc un suivi de l'enseignant, une personne ressource, un orthopédagogue, à compter du troisième cycle primaire. Cela dit, si l'enfant n'est pas en trouble d'apprentissage, normalement, il ne devrait pas toucher à l'interface de correction avant le secondaire lorsqu'il n'est pas prêt.
Et pour un adulte, bon, je sors un petit peu de l'enfant vivant avec le trouble d'apprentissage. Pour l'adulte, est-ce que l'apprentissage se fait de la même façon ou plutôt l'utilisation d'antidotes se fait de la même façon?
Bien, ça va être moins serré parce qu'on va moins viser la réussite des apprentissages prescrits. Donc, là, on va cibler principalement, OK, dans quel cadre, disons, Jean-Jacques? Alors, Jean-Jacques, dans quel cadre écrit-il? Selon qu'il doit signer des courriels ou s'il doit produire des documents un peu plus étoffés, bien là, on va lui donner des trucs avec les mêmes principes, la planification, je me prépare à écrire, et une séquence d'intervention dans le logiciel en matière de correction. Par contre, pour l'enfant, on va le faire travailler par correction séquentielle. L'adulte n'aura pas forcément à faire ça.
On se parle de l'Orestam, d'Antidote 9 et de son aide auprès des enfants et des adultes qui vivent différents troubles d'apprentissage dans le cadre d'ateliers que vous offrez avec l'Institut des troubles d'apprentissage. Ces ateliers s'adressent à des intervenants, à des enseignants, des orthopédagogues. Mais est-ce qu'un parent, parce que Antidote 9 est disponible auprès du grand public, est-ce qu'un parent pourrait aussi apprendre à utiliser Antidote 9 pour aider dans le cadre des devoirs ou, bon, dans les suivis avec son enfant?
Je suis absolument ravie que vous m'en parliez parce que ça fait quelques fois que l'Institut essaie de mettre sur pied des ateliers qu'on appellera les ateliers famille. Donc, ça peut être un ou deux parents, le parent et l'enfant, où on les accueille, l'atelier est plus court, les objectifs moins pointus, mais ce sont des ateliers vraiment basés sur l'accompagnement des familles, parce qu'ils sont souvent démunis devant Antidote, tout ça, par où commencer, parce que c'est un logiciel très vaste. Et chaque fois, pour les dernières dates prévues, on a été obligé d'annuler faute d'inscription. Alors, s'il y a de ces parents-là, des parents aussi que je rencontre, moi, en me promenant un peu partout, qui me disent, Dolores, on veut, on a besoin de séances de formation, on veut y aller, y assister, de surveiller le site de l'Institut des troubles d'apprentissage parce qu'on en offre, on les offre le samedi pour que ce soit plus facile pour les parents et les enfants de se libérer.
Alors, on rappelle Institut ta.com pour en savoir davantage. En terminant de leur estime, on sait que les enfants, puis les adultes aussi, apprennent beaucoup par le volet ludique, en s'amusant finalement. Est-ce qu'Antidote permet ça aussi?
Oui, je vous donne, j'aurais beaucoup d'exemples. Je vous en donne un. Avec Antidote, il est possible d'effectuer une recherche multimot. Alors, je formule des devinettes aux enfants pour qu'ils s'habituent. Et en passant, je dis les enfants, mais les grands adorent ça aussi quand je leur fais faire ça, même les enseignants et les orthopédagogues. Alors, on saisit deux mots-clés d'Antidote, ils nous donnent la réponse. Par exemple, je parle d'une souris. Dans ma petite histoire, il y a une souris qui se promène. J'ignore comment s'appelle le cri de la souris. Alors, on ne dira pas une souris jappe, une souris miaule, hein, c'est pas ça. Alors, si je saisis d'antidote cri et souris, j'obtiens chicoté. Et le chicotement, c'est le cri de la souris. Si je saisis crier et mésange, j'obtiens zinzinulé.
Qui est le cri de la mésange?
Et voilà. Ah. Et ai-je besoin de vous dire que les enfants fréquent, qu'ils adorent ça, qu'ils veulent en trouver d'autres? Si je saisis tigre et lion, j'obtiendrai ligre, je crois, ou tigron, qui est l'hybride de l'accouplement des deux.
Ah, vraiment? Ah, ben tout ça me semble assez amusant. Il y a Jean-Sébastien La Liberté en régie aussi qui fait un grand sourire. Il connaissait ce truc-là. Donc, si on peut apprendre en s'amusant, évidemment, il y a des avantages pour tout le monde de l'Orestam. Je rappelle, vous êtes formatrice chez Druide Informatique et pour en savoir davantage sur les ateliers que vous offrez avec l'Institut des troubles d'apprentissage, des ateliers qui sont récurrents, qui sont souvent offerts.
Oui.
pour les étudiants, pour pas les étudiants, mais oui, pour les élèves, mais à travers les enseignants et à travers les orthopédagogues, mais aussi pour les parents, parce que vous le souhaitez, institutta.com. Merci beaucoup, Dolores Tam.
Je vous remercie infiniment. Bonne fin de journée.
Au revoir. Dernier segment de cette émission, mon petit coup de cœur. Et là, ben, c'est plutôt, j'ai envie d'attirer votre attention sur une pièce de théâtre qui sera à l'affiche du côté du Théâtre La Licorne à partir du 27 février. Donc, c'est bientôt. La Licorne, c'est un petit lieu théâtral. Il faut réserver les billets à l'avance. C'est pour ça que je m'y prends un peu à l'avance. Et je voulais vous en parler parce que cette pièce qui s'appelle Gamette, écrite par Rebecca Deraspe, aborde une question très, très délicate, à savoir qu'est-ce que l'on fait lorsque on est devant un choix de vie qui a des impacts sur la vie d'un autre être humain. Et je vous explique, deux amis de longue date, Lou et Aude, se connaissent depuis énormément d'années, mais ont des valeurs extrêmement différentes. L'une des deux apprend qu'elle est enceinte d'un enfant qui naîtra avec la trisomie. Elle est confrontée au choix à savoir si elle garde cet enfant ou pas. Que dira son ami? Que dira la société? Qu'est-ce qui arrivera avec sa carrière également? On parle dans cette pièce de l'égalité entre les hommes et les femmes qui ne sont pas nécessairement confrontés au même choix lorsque vient ce genre de décision. Donc, un sujet que l'on abordera aussi, nous, à travers les prochaines semaines, mais tout ce qui est lié au dépistage de la trisomie, c'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est aussi assez sensible et que l'on aborde à travers cette pièce Gamette au Théâtre La Licorne à partir du 27 février jusqu'au 24 mars, théâtrelicorne.com pour en savoir davantage. Merci à toute l'équipe. Jean-Sébastien Laliberté, joyeux anniversaire. C'était Christiane Campagnan aux médias sociaux, Martin Forgue à la recherche, Marianne Paquette au micro. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Allez visiter notre site, vusezvoix.com. Portez-vous bien. Bye-bye.